marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio. Bernard Fichot.
Bernard Fichot, j'ai 64 ans, je suis né à Brest. J'ai fait toutes mes études à Brest, y compris mes études de fac, c'est-à-dire que après le lycée, je savais pas que foutre, comme la plupart des gens. J'avais eu mon bac à l'arrache. J'avais une formation scientifique, mais j'étais nul en maths, donc j'aimais bien l'histoire. Je me suis dit, je vais aller en histoire, avec dans l'idée de faire anthropo après. C'était ça mon idée. Et puis en histoire, j'ai découvert les cours de géo que je détestais au lycée, parce que c'était de la géoéconomique, les flux, les transports et tout. J'ai découvert la géonaturaliste et j'ai basculé en géographie. J'ai laissé tomber l'idée de l'anthropo. Et puis, c'était pas spécialement les littoraux qui me branchaient dans la nature, c'était les montagnes. Mais je voulais pas quitter Brest, j'avais mes copines, mes potes, etc. Et donc, je suis resté ici. Et comme la spécialité, c'était géo de la mer, j'ai fait une thèse de géographie de la mer. De toute façon, ça me branchait, c'était de la nature, donc ça me branchait aussi. J'ai fait ça. Et puis après, en cours de thèse, j'étais amené par hasard à bosser sur la marée noire de la Moco-Cadiz. Et pendant longtemps, pendant 6 ou 7 ans, j'ai fait que ça, des marées noires, plus des breaks, parce que je gagnais plein de pognon, donc de temps en temps, je bossais pas. Après, j'ai bossé dans une assoce de protection de la nature, Bretagne Vivante, pendant 5 ans. Puis j'ai fini par être embauché en fac, comme maître de conf. Et donc pendant 25 ou 30 ans, j'ai été maître de conférence à la fac de Brest, spécialisé en géographie plutôt que littoral. Moi, c'est géographie de la nature, quoi, dont le littoral, mais c'est pas forcément ce qui me botte le plus.
Bonjour Bernard, on t'a rejoint sur le petit port de la Maison Blanche en périphérie de Brest. D'ici, on a une vue dégagée sur la rade de Brest, puisqu'on voit le début du port militaire à gauche. Plus loin, on voit la presqu'île de Plougastel avec l'île Ronde. Et on voit également sur notre droite Roscanvel avec la pointe des Espagnols.
On est donc à la Maison Blanche, c'est un petit coin que j'adore, la Maison Blanche. C'est un petit port situé à l'ouest de Brest, c'est pas vraiment un port, mais c'est un coin où des mecs ont fait des baraques illégalement, totalement après-guerre, sur le domaine public maritime. C'est des gus qui ont des petits bateaux, c'est un lieu animé en été, j'adore ce coin-là pour ça, et parce qu'on voit toute la rade en fait. Et moi, entre autres, j'ai fait ma thèse sur les fonds de la rade de Brest, donc du coup j'aime assez bien ce milieu-là. Et puis ici, j'adore cet endroit parce qu'on voit à la fois les ports, on voit la partie nord de la rade vers Plougastel, on voit la péninsule de Plougastel, on voit l'île Longue que j'aime pas parce que c'est une grosse base militaire, on voit l'entrée du Goulet qui est le lien avec l'océan. Et j'aime beaucoup beaucoup cet endroit-là. Et en plus le bout de côte qui part de la Maison Blanche et qui va jusqu'au Porzic, on a beau être à Brest, ben, il est extrêmement bien préservé, tout en étant et ayant été très fortement modifié au cours de l'histoire, parce qu'il y a des fortifications qui datent de Louis XIV, de Napoléon III, il y a les Allemands aussi qui ont bâti quelques dizaines de blockhaus qui sont assez intéressants, et tout au bout, il y a les dégâts qu'Ifremer a pu faire en s'installant. Donc c'est un coin intéressant, c'est riche en histoire, c'est une très belle côte, il y a des belles falaises, on voit plein de choses dans les falaises, on voit bien la géomorphologie littorale. Géomorphologie littorale, pour être simple, c'est l'étude. Géomorphologie, c'est étude des formes du relief. Et la géomorphologie littorale, ça paraît un peu drôle de se consacrer à ça, c'est l'étude des formes, des reliefs des plages et la manière dont les plages évoluent. Voilà, c'est un peu très très spécialisé comme champ d'action, mais c'est intéressant comme souvent des recherches précises, quoi.
Et du coup, là, on est à Brest, au bout du monde, à l'extrémité ouest de la France occidentale. Est-ce que tu te considères comme privilégié d'habiter ici ?
Ben un peu, parce que je suis né à Brest et j'ai jamais eu envie de me barrer en fait. J'ai beaucoup voyagé, mais comme quelqu'un qui va voyager mais qui sait très bien qu'il va rentrer, quoi. Même des fois je me suis barré pendant 6 mois ou plus longtemps, mais il n'est jamais été question que je me barre de Brest. Est-ce que c'est un privilège ? J'en sais rien. Je crois que en moi, je fais partie des gens qui aiment bien avoir des racines. Je comprends très bien qu'il y en ait qui aiment bien ne pas en avoir. Moi, j'en avais besoin. Et les racines ici, elles me plaisent bien, quoi. Sous les nuages, les temps de merde, tout ça, ça me plaît beaucoup, quoi. J'aime bien le vent, j'aime bien la pluie, j'aime bien les vagues. Je suis bien à Brest, ouais.
Donc, tu viens de nous montrer des résidus de mazout qui se trouvent entre les galets sur lesquels nous marchons en ce moment. Est-ce que tu sais de où et de quand datent ces hydrocarbures et d'où est-ce qu'ils proviennent ?
Ben, je vous disais tout à l'heure qu'on allait voir de la nature et en même temps de l'histoire, quoi. Eh ben, on est là à peine à 50 mètres à l'ouest de la cale de la Maison Blanche. Et dans les galets, il y a des gros placards, on dirait du bitume, on dirait une route. Et en fait, c'est les restes d'une marée noire. Ça, c'est assez rigolo. C'est la plus ancienne marée noire qui soit connue. Et, pendant la guerre, il y a eu l'appel du 18 juin, lorsque De Gaulle s'est barré en Angleterre. Et cet appel du 18 juin a été reçu en France. Les Allemands approchaient de Brest et il y a des officiers de la marine française qui ont décidé de rejoindre De Gaulle. Et comme les Allemands allaient arriver et qu'au-dessus de la Maison Blanche, il y a les parcs d'hydrocarbures de la marine, tous les hydrocarbures sont stockés au-dessus de la Maison Blanche, les officiers ont décidé de faire sauter les stocks avant que les Allemands n'arrivent. Ils ont fait exploser les cuves, sans trop se soucier du reste. Les cuves ont pris feu, ça a explosé, le mazout a débordé et il est descendu dans le village de la Maison Blanche où il y avait 18 maisons. Les 18 maisons étaient carbonisées, sauf une, il en reste une. Et après, l'énorme masse de mazout est descendue sur la plage, dans la mer, et elle a été embarquée, elle s'est déposée tout du long de la côte. Et bien sûr, c'était juste avant que les Allemands n'arrivent. Et à l'époque, les marées noires... Bref, il n'y a pas eu de nettoyage. Le seul nettoyage qu'il y a eu, c'est que les gens qui habitaient autour de Sainte-Anne, c'est les seuls à avoir pu se chauffer à l'œil pendant toute la guerre. Parce qu'il y avait tellement de mazout sur les plages qu'ils venaient, ils découpaient. Le mazout avait durci, ils découpaient des briques de mazout et ils mettaient ça pour se chauffer à la maison. Je ne te dis pas les microparticules dans les fioles, quoi. Mais ils n'ont eu qu'une partie du mazout, ça n'a jamais été nettoyé. Et ce pétrole qui avait pris feu, qui donc avait un petit peu vieilli, qui était gluant, il s'est collé sur les rochers, il s'est induré et il y est toujours. C'est-à-dire que si vous venez à la Maison Blanche, vous laissez 50 mètres à gauche, au pied des falaises, vous verrez d'énormes placards de mazout. Alors rassurez-vous, il n'est plus du tout toxique. Si vous réussissez à le casser, il faut une pioche, ça sent encore un peu le mazout, mais c'est juste du bitume, quoi. C'est une très très vieille marée noire, voilà, et qui n'a jamais été nettoyée.
Et du coup, on sait qu'au cours de ta carrière, tu as eu l'occasion de travailler sur la dépollution de marées noires en Bretagne, aux États-Unis et au Liban aussi. Est-ce que tu as pu tirer des leçons de ce type d'événement que beaucoup de gens considèrent comme des catastrophes écologiques ?
Les marées noires, c'est très impressionnant, ça fait peur, ça angoisse, c'est logique parce que c'est souvent beaucoup, beaucoup de pétrole, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent, parce que... Il y a plein de faune qui meurt parce que c'est dégueulasse, parce que c'est tellement... Et puis on se dit que ça va rester éternellement. Mais moi, j'ai bossé beaucoup et longtemps là-dessus. En fait, c'est une catastrophe en ce sens que la guerre mondiale aussi, c'est une catastrophe. Quand il y a eu la guerre mondiale, des millions de personnes sont mortes. En ce sens, c'est triste. Mais ça n'a rien changé au sort de l'humanité. On n'a pas failli disparaître. Et les guerres n'ont jamais fait disparaître les humains. Et une marée noire, c'est un peu pareil. C'est... Beaucoup de mortalité, beaucoup de dégâts, etc. Mais c'est pas une catastrophe durable, contrairement à ce que pensent les gens. Certes, on nettoie, maintenant on nettoie, etc. Mais même si on nettoyait pas, ça dure un certain temps. Et ça finit par disparaître. Les Bretons ont tous en mémoire, enfin, même ceux qui étaient pas nés, la Mococadise, 220 000 tonnes. Les traces de la Mococadise, au bout de 8 ans, il y en avait, pour ainsi dire, plus nulle part. Alors que ça avait été une marée noire très mal nettoyée. Juste après, il en restait plein partout et la mer a fini le boulot. Et moi, je crois que c'est pas... Si, c'est pas bien, je vais pas dire que c'est bien, mais ça n'a rien d'extrêmement durable, une marée noire, quoi. Et ça me remet pas en cause les équilibres écologiques.
Donc, on a continué à marcher en direction du phare du Portzic. Et si on tourne le dos à la mer, on voit qu'il y a un arbre qui a été déraciné et qui se trouve maintenant en pied de falaise. Est-ce que tu peux nous parler de ces falaises et des processus d'érosion qui agissent sur nos littoraux ?
Ouais, donc on est à mi-chemin entre la cale de la Maison Blanche et le phare du Portzic, au pied de la côte. Et on a. C'est une côte à falaises ici. Les falaises, elles font une dizaine de mètres de haut, disons. Elles sont vives, c'est-à-dire qu'à la base, elles ne sont pas couvertes de végétation. Et effectivement, là, il y a un très grand pin qui est tombé du haut de la falaise, qui s'est fracassé en bas. Il a arraché une partie du haut de la falaise, d'ailleurs. Et donc le haut de la falaise a reculé. Alors ces falaises-là, par définition, c'est des lieux de recul de la côte, quoi, parce qu'elles sont dénudées, il n'y a pas de végétation qui pousse dessus, il n'y a pas de sol. On voit bien que la mer enlève des choses. Mais par exemple, une des questions qu'on se pose en géomorphologie, c'est, et surtout dans un contexte actuel où on nous parle de remontée du niveau de la mer, etc., etc., est-ce que toutes les côtes sont en voie de recul ? Cette côte-là, sur le très long terme, avec ses petites falaises qui sont usées à la base, etc., elle recule, la côte de la Maison-Blanche, comme d'autres dans le monde. Mais ça recule hyper, hyper, hyper lentement. Et ça recule pas beaucoup par l'action des vagues. Les vagues, vous le verrez si vous venez sur la grève, il y a des galets à la base des falaises. Les vagues balancent les galets sur la base des falaises et les galets y tournent et ils font un petit peu comme de la pierre ponce. Ils usent la base des falaises, ils creusent même des petites encoches. Mais pour autant, la falaise va pas se casser la figure tous les 36. Quand elle se casse la figure, ici, c'est l'exemple de cet arbre, c'est un pin. Les gens du coin appellent ça le bois de sapin, mais c'est un bois de pin. C'est des pins qui ont été plantés là par les hommes. Ils n'avaient rien à foutre là, ils sont trop grands pour pousser naturellement dans cet endroit. Et ce qui se passe, c'est que lors de certaines tempêtes, ils ont tellement de voilure, ces pins-là, qu'ils sont arrachés par le vent et ils tombent. Ils sont déracinés et ils entraînent une partie de la falaise avec eux. Mais c'est le haut de la falaise qui tombe. C'est pas les vagues qui ont fait reculer la falaise, c'est le vent qui a fait chuter un arbre et qui a entraîné des débris vers la base. Alors on verra, il y a d'autres endroits où c'est comme ça. Je vois là-bas un gros morceau de falaise qui est tombé. Tu vois que c'est encore un bout du haut dégringolé. En fait, ces falaises-là, je connais pas, j'ai pas mesuré leur taux de recul, mais je suis sûr que sur 1000 ans, si on fait la moyenne du recul d'ici jusqu'à la plage du Porzic, ça a reculé en moyenne de quelques centimètres. Et c'est la moyenne, c'est même une notion à moitié conne. C'est par endroit, ça s'est effondré. Et il y a d'autres endroits, pendant 1000 ans, ils vont rester immuables. On est quand même dans un coin, c'est la rade de Brest. Il n'y a pas des houles de 15 mètres de haut qui arrivent ici. Hein. Quand il y a des tempêtes, tu as du 1,50 m de vagues à tout péter. Sur le pied de la falaise, la mer est haute que pendant une heure. Après, le pied de la falaise est dégagé. Les processus ici d'érosion, ils sont très très lents. La falaise, en gros, elle reste toujours nettoyée par les vagues, mais ça ne veut pas dire qu'elle recule à grande vitesse, quoi. Ça recule très peu, hein, ici. Alors, ces falaises sont très belles parce que, par contre, et c'est ça qui est beau en géographie de la nature, quand tu regardes bien les choses et que tu as des clés de compréhension, il faut avoir quand même bouquiné, on voit ici... Il y a la mémoire de ce qui s'est passé au cours des milliers d'années antérieures. La rade de Brest, le monde entier a subi depuis 2 millions d'années, c'est relativement bref, des successions de glaciations, des glaciations, pour faire simple, une quinzaine. Quand il y a des glaciations, c'est le nord de l'hémisphère nord qui s'englace, la Sibérie se couvre de glace, la Suède, le Canada et tout. Et comme la glace se stocke sur les continents, les océans baissent. Ça s'est produit 15 fois et c'est pas de la baisse pour de rire. L'océan baisse de 130 mètres. Ce qui fait que la rade de Brest, 15 fois en 2 millions d'années, c'est devenu non pas une rade, mais une espèce de grande plaine avec des rivières qui coulaient au milieu et plus une goutte d'eau dans la rade. Quand vous regardez la rade, quand vous êtes à la Maison Blanche, imaginez-vous, il y a 15 000 ans, il y avait une espèce de toundra avec deux fleuves au milieu, des bisons qui se baladaient, etc. Il n'y avait plus du tout de mer. En fait, il y a très rarement de la mer dans la rade de Brest. Il y en a pendant 20 000 ans, tous les 100 000 ans. Grosso modo, c'est ça. La plupart du temps, c'est un milieu qui est hors de la flotte. Et quand c'est hors de l'eau, quand c'est ce paysage que je viens de décrire, ici, le climat est tellement froid que c'est comme au nord de la Sibérie. On n'a pas de glacier ici, mais il fait froid à mourir. Il n'y a pas une forêt, il y a un peu de toundra. Et il y a des processus particuliers qui font que le sol gèle et dégèle en permanence. Et que ça explose complètement les roches en place, d'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que sur les plateaux, sur toute la région, ces roches-là sont déstructurées par le gel et elles coulent lentement sur les versants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ici, pendant la dernière glaciation, toutes ces falaises que vous voyez ont été recouvertes de ce matériel qui venait du plateau au-dessus et qui a fait comme une espèce de gangue de glaise mélangée à des cailloux qui a empâté toutes ces falaises-là. Il faut les imaginer recouvertes d'un manteau gluant de matériel qu'on appelle du aide et qui a empâté toutes ces falaises-là. Et après, la mer remonte. La mer remonte après la déglaciation. Elle envahit la rade de Brest et la mer, elle arrive sur ces falaises que l'on voit maintenant. Elles sont empâtées d'une espèce de mélange comme ça. Et les vagues, elles déblayent ça à 100 à l'heure parce que c'est de l'argile non consolidée, pleine de cailloux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de cailloux au pied des falaises. C'est pas que les falaises actuellement se cassent la figure, jettent des cailloux par terre qui se transforment en galets. Ces cailloux-là, ils sont venus en glissant par-dessus les falaises quand il n'y avait pas d'eau dans la rade et quand la mer est remontée, elle a attaqué ce matériel-là. L'argile est partie la glaise et tout ça pour aller sédimenter au fond de la rade de Brest. Et les cailloux sont restés sur place. Et les vagues sont assez puissantes pour rouler tout ça et fabriquer des galets avec. Donc, en gros, tout le matériel qui est sur les plages, là, il est hérité. Il a été fabriqué par des processus qui ne sont pas des processus marins. La mer a juste nettoyé et fait un joli petit truc. Elle nous a collé des petites grèves ici ou là. Elle s'est contentée de nettoyer la camelotte, quoi.
Et du coup, c'est ce phénomène-là qui est à l'origine des flèches en rade de Brest sur lesquelles tu as travaillé aussi ?
Ouais, après, bien évidemment, les vagues, elles n'arrivent pas à bouger grand-chose dans la rade. Elles ne sont pas assez puissantes. Donc, des fois, on voit des gros blocs. Ils proviennent des processus que j'ai décrits précédemment. Eux, ils restent sur place. Mais les petits cailloux deviennent des galets. Et si les vagues sont assez puissantes, elles vont les déplacer. Ben, si les vagues sont toujours face à la grève, les cailloux vont faire que monter et descendre sur la grève. Mais si les vagues arrivent de travers, elles génèrent ce qu'on appelle une dérive littorale et elles vont pousser de manière graduelle les cailloux dans une direction donnée. Et comme dans la rade de Brest, il y a plein de pointes, plein d'orientations différentes, ben des fois, au bout des pointes, ces cailloux s'accrochent au bout des pointes et forment ce qu'on appelle des flèches et des sillons. Et dans la rade, il y en a un paquet, il y en a une quarantaine de formations comme ça. Hein, Guilcher, qui était le plus grand géomorphologue du monde, qui était aussi d'ici, donc un peu chauvin comme moi, il disait quand même que la rade de Brest, c'était une des splendeurs du monde à cause du nombre de flèches. Si vous connaissez l'Oberla, le Log, le Sillon des Anglais, tout ça, il y a des formations littorales qui sont très très belles dans la rade, quoi. C'est rare que les vagues arrivent de ce bord-là, ici. Hein. Tu vois, on voit qu'elles viennent elles sont plutôt une tendance est, et du coup, elles tirent vers là-bas, alors que d'habitude, elles viennent dans l'autre sens, quoi.
En parlant d'érosion, tu nous as bien dit que c'était un phénomène naturel et qu'il était important de replacer ce phénomène sur le long terme. Aujourd'hui, en géographie, il y a de nombreux chercheurs qui travaillent sur les risques, donc les risques sanitaires, les risques côtiers, par exemple. On a cru comprendre que tu n'étais pas forcément intéressé par l'étude de ces risques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, l'étude des risques côtiers, comme tu l'as dit, en fait, il y a plein de gens en géographie maintenant qui bossent sur les risques. Ceux qui sont en montagne, c'est les risques d'avalanche, les risques d'éboulement, les risques de ci, les risques de ça. Les mecs étudient la nature à travers le risque. Moi, déjà, c'est un truc qui me gaffe, quoi. Je vois pas le monde comme risqué. Je vois l'espèce humaine comme prenant des risques en faisant des conneries, etc. Mais sinon, les processus naturels, c'est des processus naturels. Et donc, ce qui me m'horripile un peu, c'est que ce soit devenu quasiment la thématique principale de recherche en géographie de la nature, c'est le risque. Ça me gaffe parce que c'est une mode, parce que, évidemment, c'est surfer sur un truc qui est l'inquiétude globale qui plane dans le monde. Les gens ont peur un petit peu plus qu'avant de ce qui va devenir du monde dans les décennies à venir. Et moi, surfer sur les vagues de trouille, ça me gonfle toujours. C'est comme la loi sur surveiller, pas le droit de filmer les flics et tout ça, ça me sort par les trous de nez. Et qu'on aborde la nature par le risque, ça me sort aussi par les trous de nez. Surtout que, alors c'est un peu méchant ce que je dis, mais la plupart, qu'est-ce que c'est les risques côtiers ? Ben c'est clair et net, réchauffement climatique, le niveau de la mer va monter, on n'y coupe pas, il va monter peut-être d'un mètre, ce qui n'est pas rien du tout, mais la plupart des risques, des études menées par les géomorphologues sur le risque côtier, c'est que va-t-il advenir des résidences secondaires ici ou là ? Qu'est-ce qui va en advenir ? Elles vont être sous la flotte, c'est clair les mecs, et tant pis pour votre gueule, à mes yeux, fallait pas construire au bord de la mer. Et aborder le risque côtier par cet aspect-là, à mes yeux, en plus, c'est se foutre de la gueule des gens. Parce que le vrai risque, si le niveau de la mer monte d'un mètre, c'est que le port de Rotterdam, les quais vont être remplis de flotte, les ports du Havre, de Marseille, tout ça, ça va être rempli d'eau. C'est comment vont marcher les ports, sachant que tout le trafic de marchandises dans le monde se fait. Mais comment, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs ? Ils vont enlever tout ce qu'il y a à Rotterdam, monter les quais d'un mètre et remettre les usines par-dessus. Si risque côtier il y a, et risque ayant des importances assez considérables pour les humains, c'est là que ça se passe. Et étrangement, il n'y a aucun spécialiste du risque littoral qui s'aventure là-dessus, parce que c'est tellement compliqué. C'est des milliards de dollars d'enjeux, etc. Comment ils savent pas. Personne n'est capable de dire comment on va faire pour protéger les ports. Alors, à mes yeux, mais si quelqu'un me contredisait, j'accepterais. À mes yeux, ceux qui bossent sur les risques côtiers, ils font mumuse, quoi, tu vois. ils font mumuse. Est-ce que tel village, ils étaient engloutis, l'île, tu dis, tout ça, ben un peu, mon neveu. Les mecs auront plus besoin de faire des piscines dans leur jardin. La piscine sera devant la télé dans le salon. Mais bon, ben voilà, quoi, les choses sont dites. Il y a plein de gens qui vont être obligés de dégager du bord de la côte. Et tant mieux, fallait pas qu'ils y aillent. Tu vois ? Et le vrai risque, il est ailleurs. Il n'est pas... C'est de la turlude, le risque côtier pour l'habitat. Les risques, ils sont ailleurs, quoi. Voilà.
Okay. Voilà ce que j'en pense.
Tu parlais de la peur. Est-ce que tu trouves que la société dans laquelle on vit est hygiéniste ?
Ouais, par certains côtés, ouais, je trouve qu'elle est hygiéniste. Ouais. Je trouve, j'ai même écrit un papier là-dessus. Le nettoyage des marais noirs, approche raisonnable ou approche hygiéniste ? Et je pense que la société est un petit peu hygiéniste. Ouais. Il y a des... Ce contexte que je comprends fort bien, hein, si j'avais 25 ans, maintenant j'aurais un peu les jetons de ne pas trouver de boulot. J'aurais plein de trucs comme ça que moi, j'ai pas ressenti étant jeune, parce que c'était la fin des 30 Glorieuses. J'avais même pas conscience qu'il y avait du chôme dû. C'est pour ça que je parais avoir vécu une vie à la cool, c'est parce que juste je m'en branlais. J'étais expert marée noire, j'allais faire chauffeur de taxi aux États-Unis pendant 6 mois, parce que je me disais quand je reviendrais, je trouvais un autre boulot, je m'en foutais. Mais c'est pas du tout un esprit d'aventure, c'est un esprit d'inconscient qui avait patrouille. Maintenant, j'aurais plus peur. J'aurais peur de pas trouver de boulot, j'en suis sûr. J'aime pas être à la place, me mettre à la place des mômes. Donc, je pense que ce monde est un monde effectivement moins rigolo que celui que j'ai vécu au même âge que vous. Mais pour autant, les dérives qui font que... Enfin, non seulement c'est hygiéniste, mais c'est ultra politiquement correct, etc. Des fois, t'es obligé de faire gaffe à ce que tu dis, sinon tu vas vexer un tel, t'as pas le droit de dire ça. Ça me casse profondément les burnes, quoi. Ça m'intéresse pas. Et j'ai vu l'hygiénisme en marée noire, moi, où une fois qu'on a nettoyé une marée noire, il reste des boulettes ici ou là. On sait très bien que la toxicité de ces boulettes, c'est rien du tout. Ça fait rien. Faut nettoyer les plages pour qu'elles soient plus propres que qu'un évier une fois qu'on a fini la vaisselle, quoi. Et là, on rêve, quoi. Ouais, je pense que le monde est hygiéniste et ça me plaît pas. J'aime bien le monde. J'aime bien quand le monde où il y a des trucs qui dysfonctionnent. Et l'hygiénisme, c'est s'attacher à des petites choses qui dysfonctionnent et pas vraiment voir où est le truc dangereux, quoi.
Say. de Marine. Sur Radio U.
Aujourd'hui, dans Marine, nous sommes partis longer les côtes brestoises en compagnie du géographe et géomorphologue Bernard Fichot. Il a passé sa vie à étudier et à enseigner les processus qui façonnent les côtes. Ensemble, nous discutons de géomorphologie littorale et de ses expériences personnelles.
Ici, on est à la pointe du Porzic, pile poil sous le phare du Porzic, vraiment en dessous. Honnêtement, je trouve que c'est un coin assez magique parce que déjà, il y a le goulet de Brest. On est juste à l'entrée. Le goulet, c'est cette section assez étroite qui permet de rejoindre la rade et l'océan. Je trouve que c'est vraiment de toute beauté. Et puis aussi, là aussi, c'est bien quand on essaye de s'imaginer les paysages anciens. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand on regarde la côte en face, c'est la côte de Roscanvel. On voit des versants couverts de fougères, de fourrés, etc. Et quand on regarde ça comme ça, on se dit « qu'est-ce que c'est sauvage ?» Ben, c'est un leurre parce que, en fait, ce goulet de Brest... Depuis l'époque de Richelieu, ça fait quand même un bon bout de temps que le port de guerre de Brest a été fait. C'était quand même le principal port de guerre français. Il a été fait à Brest, pourquoi ? Parce que ça permettait de planquer l'escadre dans une rade, abritée du vent, des tempêtes, tout près de l'océan, et aussi éventuellement abriter des ennemis. Mais pour ce faire, il a fallu fortifier le goulet, parce que le goulet, si des gens pouvaient y rentrer, donc dès l'époque de Richelieu et surtout sous Louis XIV, sous Vauban, de part et d'autre du goulet, ils ont fait un système de fortification ahurissant. C'est-à-dire que nous, on est à la pointe du Porzic, où il y a le phare du Porzic, et en face, à la pointe des Espagnols, à 1,7 km en face, il y a le phare des Espagnols. Et si on regarde bien la côte, en face, il y a quatre forts. Et de ce côté-ci aussi, il y a le Porzic, après il y a le Délec, après il y a le Mingan, après il y a le Minou. Ce qui fait que ce qu'on voit là, il faut s'imaginer, il y a 300 ans, c'était un coin hyper militarisé ici. Il y avait des forts partout, et pas comme maintenant, couverts de lierre et d'arbres et tout ça. C'était des forts, attention, c'était le top du top de la fortification, avec des centaines de mecs qui vivaient là-dedans, avec des chemins qui maintenant ont disparu sous la lande, qui allaient d'un fort à un autre, des gus qui étaient en patrouille et tout. Ça devait être l'enfer militarisé, en fait, il y a de ça 300-400 ans. Et puis Napoléon III a remis une couche, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des forts de part et d'autre du goulet. Pourquoi ? Parce que les canons à l'époque de Louis XIV n'avaient pas une portée assez suffisante pour que leurs boulets traversent tout le goulet. Donc il fallait mettre des forts au sud, du côté Roscanvel, et des forts au nord. Comme ça, si un bateau anglais, c'était toujours les Rosbif qui emmerdaient tout le monde, rentrait dans le goulet, on pouvait le prendre avec des feux croisés. Mais quand est venue l'époque de Napoléon III, où le port était toujours là, les canons étaient assez puissants pour tirer d'un bord à l'autre. Et donc Napoléon III a fait refaire tous les forts situés côte nord, c'est-à-dire côté Brest, dont le fort du Porzic, du Mingan, etc., etc. Mais les forts d'en face, ils n'ont pas été touchés. Ce qui fait que si d'aventure vous allez sur la côte en face, voir le fort de Cornouailles qui est au ras des flots, il est typique Louis XIV, quoi. Il n'a pas été retouché depuis. Les Allemands ont fait quelques petites bricoles en plus. Mais donc on a deux générations de forts. On a les vrais Louis XIV en face et les Louis XIV revus Napoléon III de ce côté-ci. Et ça aussi, même sans aimer l'architecture militaire, je peux dire que je ne suis pas un fan de ça. L'air de rien, ça vaut le coup. Et ces forts-là sont très, très, très beaux parce que moi, j'ai découvert ça. Les militaires peuvent avoir un sens de l'esthétique. En fait, leurs forts sont faits de pierre du gneiss, qui est de la pierre qu'on trouve ici à Brest, mais tous les créneaux et tout ça sont faits avec des granites de la Berylduth, super bien sculptés et qui ont vraiment une esthétique remarquable, quoi. Et d'ailleurs, plus loin, on verra un point où, comme le granit venait de la Berylduth, on pouvait l'amener, c'était des tonnes de granit qu'il fallait amener pour faire les créneaux. Soit ça allait par route, mais le plus simple, c'était de venir en bateau. Donc ils amenaient des bateaux ici au pied des falaises, et après, je ne sais pas comment, ils se démerdaient pour monter le granit en haut. Sauf que certains des bateaux se sont vautrés. Il y a des bateaux qui, ici, ont été sans doute chahutés contre les falaises par les vagues, et qui, tout le chargement est tombé à la flotte. Ce qui fait qu'on verra plus loin plein de pierres de granit, magnifiquement sculptées, qui sont là, tombés à l'eau il y a 300 ans. Il y en a ici, il y en a au Minou, au fort du Minou, où il y a tous les surfeurs. Si vous allez au pied du fort du Minou, vous verrez plein de granit de la Berylduth. C'est pareil, ils se sont gaufrés, quoi. Donc il y en a là, il y en a en plein d'endroits, en fait. En me baladant le long de la côte, j'ai vu qu'ils ont perdu pas mal de cargaisons. Donc voilà, c'est beau, et puis pareil, il y a un condensé de nature, d'histoire, tout ça qui est assez sympa le long de ce petit tronçon de côte urbain, quoi, l'air de rien. Ouais, le Goulet, il a ça de fantastique. Si vous le regardez de, ou bien de la côte, ou bien du sentier côtier, c'est que vraiment, c'est étrange. Et on peut se poser la question, comment ce machin-là a été fabriqué? Parce que c'est bel et bien une tranchée étroite, un goulet, quoi, une espèce d'avenue d'un kilomètre neuf à deux kilomètres de large, qui vient de la pointe du Porzic et qui va jusqu'au Minou. Mais la question est, comment ça a été creusé? Il y a plein de gens qui m'ont demandé, ils ont du mal à imaginer, ils se disent, c'est les vagues qui ont creusé un truc, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Faut imaginer, comme je vous le disais, la rade, elle est, depuis 2 millions d'années, elle est beaucoup plus souvent à sec que remplie d'eau. Parce que le niveau de la mer est beaucoup plus bas et donc elle est beaucoup plus loin. Et en fait, quand la rade de Brest est à sec, il y a deux grands fleuves qui y circulent, c'est l'Aulne et l'Elorne. Ces deux fleuves confluent à peu près à l'entrée du port de Brest et deviennent un seul et même fleuve qui, en fait, sort de la rade par le Goulet. Ce qui fait que le Goulet, c'est pas quelque chose qui a été creusé par la mer, c'est une vallée creusée profondément par un fleuve qui y coule quand les niveaux de la mer sont bas. Et puis, tout simplement, la mer, elle s'est contentée quand elle a remonté d'envahir le Goulet et la rade qui est derrière. Mais le Goulet, c'est une vallée. C'est une grande vallée ennoyée, tout bêtement, quoi. C'est les rivières qui l'ont creusée et non pas la mer qui, je sais pas par quel miracle, creusée exprès là et pas ailleurs, quoi. On comprend que les rivières puissent faire des vallées. Il y en a partout dans le monde. Et ça, c'est une vallée ennoyée. Et ça aussi, c'est un côté magique de paysage. Moi, c'est comme ça, c'est pour ça que j'aime les paysages. Si on les comprend, ils sont encore plus beaux parce qu'on voyage dans leur formation, quoi, dans le temps qu'il a fallu pour les créer, quoi. Et ici, je trouve qu'il y a ça. À tous les 100 mètres dans la balade, on voit des trucs comme ça, quoi, qui appellent à des explications qui paraissent magiques, mais qui sont vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre, quoi. Bon, une fois qu'on a passé la pointe du Porzic et le phare du Porzic, et qu'on rentre dans l'anse de Sainte-Anne, on arrive à une autre pointe. Et là, c'est assez étrange, parce qu'on est sur le sentier côtier, on longe des fils de fer barbelés, parce que au-delà du sentier côtier, c'est un terrain militaire. Et à un moment, on voit une entrée souterraine. Il y a une date au-dessus, ça doit être 1953. On peut se demander ce que c'est. En fait, ici, après-guerre, la Marine nationale a demandé à avoir une centrale électrique pour être alimentée. Et comme c'était après-guerre et dans le contexte de la guerre froide naissante, ils ont décidé de faire la centrale là où on est, mais ils l'ont faite souterraine. Ils ont creusé sous la terre, et là, il y a une centrale électrique qui est sous terre à la pointe. Elle est à 60 mètres sous la terre, et ça a été entièrement creusé à partir du plateau en haut, et à partir de la galerie qu'on voit là. Résultat des courses, ils ont sorti des milliers de mètres cubes de roches pour fabriquer une centrale qui est grande comme une cathédrale à l'intérieur de la terre, là. Mais on était à une époque où les soucis environnementaux et tout ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils allaient faire des milliers de tonnes de cailloux qu'ils ont sortis? Ben, ils ont tout balancé à la mer. En fait, quand vous êtes sur le sentier, vous verrez un moment que vous passez sur l'ancien remblai qu'ils ont fait à partir de ça. Et à la même époque, on reconstruisait Brest. Mais il fallait détruire toutes les ruines de Brest et aller les mettre quelque part. Et si vous regardez bien la côte à un moment donné, vous verrez des falaises. Dans les falaises, il y a de l'amiante, il y a des blocs de béton, il y a des barres de ferraille et tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont balancé à la mer devant la centrale, et c'est assez grand quand vous y passerez, c'est à la fois ce qui provient du gneiss qui a été enlevé des bouts de cailloux, et toutes sortes de merdes immondes qui proviennent de la destruction de Brest. Tout ça, ça a été étalé en mer pour former un gigantesque terre-plein, qui depuis est en cours d'érosion par la mer, par la côte, on le voit bien. Et en plus de ça, cette centrale étant à l'intérieur de la terre, il fallait refroidir les turbines. Moi, j'ai été visiter ça quand j'étais petit, parce que mon père était mécanicien dieseliste dans cette centrale-là, donc j'y allais souvent. Et pour refroidir les turbines de la centrale, ben, il n'y avait rien de plus simple que de pomper de l'eau de mer et de l'envoyer à l'intérieur pour refroidir tout ça. Donc, ils ont aussi creusé des galeries. On voit des grands puits en béton qui sont sur la côte. Ça, c'est des. Ils sont à l'aplomb des galeries qui amènent l'eau de mer à l'intérieur de la centrale pour refroidir les machines. Mais bien évidemment, à l'entrée de ces galeries sous-marines et souterraines, en même temps, il y avait des organismes vivants qui se collaient, du goémon, toutes sortes de choses qui pouvaient obstruer les galeries. Donc il fallait les nettoyer. Et comment on faisait à cette époque-là? Et ça aussi, c'est un changement radical. Et ben, de temps en temps, ils prenaient des des fûts de chlore purs, des fûts de 200 litres. Et d'ailleurs, si vous faites de la balade, vous verrez qu'à un moment, il y a des rails, des petits rails de chemin de fer qui aboutissent à un local en béton qui maintenant est fermé par un mur de briques. Mais il y a quelque temps encore, il était ouvert. Et il y a encore 30 ans, il y avait le petit wagonnet qui était là. Le wagonnet partait du petit local où il y avait des fûts de chlore purs. Les fûts étaient amenés jusqu'au bout de la petite voie de chemin de fer, près de la porte d'entrée de la centrale. Il y avait une petite grue qui descendait les fûts sur une camionnette. Les camionnettes allaient dans la centrale. Les mecs ouvraient les fûts de 200 litres de chlore pur et ils les balançaient dans les galeries. Évidemment, à marée descendante, tous les centaines de litres de chlore pur partaient directement dans l'Anse de Sainte-Anne. Et dans l'Anse de Sainte-Anne, c'était la principale plage de Brest. Il y avait des centaines de mômes, dont moi, qui étaient en train de patouiller dans la flotte. Voilà comment était gérée l'approche environnementale à l'époque. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui ont changé. On a des menaces plus grandes, le changement climatique et tout ça. Mais dans certains détails de la gestion de l'environnement et tout, il y a quand même eu des progrès de fait, quoi. Imaginez maintenant des gugus qui, pour nettoyer leurs chiottes, iraient balancer 200 litres de chlore dedans. Ça ferait un sacré foin. Là, c'était l'État. C'est la marine française qui envoyait des fûts de chlore directo dans l'Anse de Sainte-Anne où il y avait des centaines de personnes en train de se baigner après avoir remblayé sur des hectares et des hectares avec les mélanges de tous les débris qui provenaient du bombardement de Brest qui était étalé sur les plages, quoi. Alors ça a changé, hein. Et pour aller au-delà, si on revient sur les marées noires, il y a une période, disons, faste pour les marées noires, c'est les années 70-80, ça n'arrêtait pas, tous les ans, il y avait des pétroliers qui se foutaient en l'air. Et il y a plein de gens, c'était vraiment, disons, ils étaient les rois des mers, quoi. Ils polluaient, ils faisaient des marées noires, etc. Mais il y a eu un moment quand même, l'Amoco a été un grand déclencheur, il y a une forte colère populaire ici, forte colère même des élus locaux, qui en ont eu marre de voir leur côte qui servait de réceptacle à mazout tous les ans. Et quand des gens disent « Ouais, l'État fait rien, l'État n'a rien fait, c'est toujours pareil », moi, il y a des fois, j'ai beau être un peu un contestataire né, c'est faux. Moi qui ai l'histoire des marées noires bien en tête, les progrès qui ont été faits sont considérables, à la fois en matière de prévention, surveillance des pétroliers, en matière d'assistance aux pétroliers, quand il y en a un qui menace de s'échouer, il ne reste pas traîner longtemps en mer comme la Moco. Donc surveillance, matière de nettoyage, de conseil au nettoyage. Il y a des choses qui... Tout n'est pas blette, quoi. Il y a des choses qui ont été prises en compte. C'est pas le plus dur à prendre en compte. C'est plus facile de gérer des marées noires que de gérer un changement climatique. Ça implique moins de monde et moins d'acteurs, quoi. Mais il y a des choses qui progressent, quoi, ou qui du moins évoluent dans un bon sens, quoi.
Donc là, on est arrivé à la plage de Sainte-Anne-du-Porzic. Donc c'est la seule plage qui est naturellement sableuse dans la rade de Brest, il me semble. Est-ce que Bernard, tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette plage que tu connais ?
La plage de Sainte-Anne, elle est à proprement parler, pas sur la rade elle-même, mais sur le Goulet. Et de fait, c'est une des rares plages où il y a du sable, et il y en a moins qu'il n'y en avait avant, parce que cette plage-là, elle a une autre particularité, on l'appelle souvent la plage de la rive droite. Mais il faut remonter dans le temps, vers 1920-1930, il y avait un tram déjà à Brest, et ce tram, il arrivait jusque au-dessus de la plage de Sainte-Anne, ce qui fait qu'à l'époque où il n'y avait pas de bagnole et tout ça, c'était la plage favorite des Brestois qui pouvaient prendre le tram et ensuite ils descendaient pique-niquer là. Moi, quand j'étais petit, je venais là, il y avait déjà des bagnoles, mais c'était noir de monde. C'était une plage où c'était rempli de chez rempli. Et même dans la seconde moitié du XXe siècle, toutes les maisons qui sont actuellement dans la descente vers la plage, c'était des guinguettes, c'était des bars où il y avait bal popu, où il y avait resto, etc. C'était un lieu très très attractif. Et c'était une plage qui était beaucoup plus sableuse que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on y va, il y a de la plage, il y a du sable au pied du mur, du parking. Mais sinon, quand on va sur le côté, il n'y a plus du tout de sable, il n'y a que des cailloux, etc. Faut bien vous imaginer. Et si vous trouvez des photos anciennes, que tout ce qui est le fond de l'Anse de Sainte-Anne, il y avait du sable partout, jusqu'à ce qu'Ifremer se pointe.
Avec les collègues de l'Institut universitaire européen de la mer et avec la ville de Brest, vous avez mis en œuvre un réensemblement de la plage. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, cette méthode de gestion de la côte ?
Ben, d'abord, pourquoi le sable a disparu? Parce que c'est bien ce qui s'est passé, hein, entre quand j'étais petit où il y avait plein de sable et puis il y a quelques années où il n'y en avait presque plus. Qu'est-ce qui peut bien avoir changé? Il n'y a rien qu'à changer dans la nature. Le climat n'a pas changé assez pour que la plage disparaisse. Donc c'est comme ça qu'on procède, en fait, quand il y a des grandes modifications. Qu'est-ce qui a changé? C'est que en 1970, Ifremer, qui s'appelait pas Ifremer à l'époque, mais Ifremer a déménagé en gros de Paris en Bretagne. Et on leur a donc construit le site d'Ifremer au-dessus de la plage de Sainte-Anne, côté Plouzanais. Mais à l'époque, pour faire simple, les grands ponts d'Ifremer ont dit « oui, on veut bien aller à Brest, mais il nous faut, quand même, on est Ifremer, il nous faut une digue digne de ce nom pour accueillir nos navires d'expédition à travers les mers du monde ». Donc, et tous ceux qui connaissent Sainte-Anne voient l'énorme digue de blocs qui maintenant part de la plage et s'avance dans le Goulet. Ça, c'est Ifremer qui a exigé de la faire faire. On n'en voit que la partie qui dépasse de la flotte, parce qu'elle s'avance tellement loin que tout au bout, même quand la mer est basse, il y a encore 10 mètres de digue sous l'eau. Donc ils ont fait une carrière au nord de Brest, ils ont pendant des mois et des mois extrait des blocs pour faire ce truc-là. Donc Ifremer a eu sa digue, sachant pour la petite histoire que jamais un seul gros bateau d'Ifremer n'est venu à cette digue-là. Comme quoi, il y en a des fois, ils ont des exigences, il ferait mieux de s'asseoir dessus, quoi, profond. Mais bon, ils ont fait cette digue. Qu'est-ce que ça a changé dans le système? Ça a changé qu'avant qu'il y ait la digue, tout le monde comprendra bien que les vagues qui rentrent dans le Goulet venaient directement sur la plage de Sainte-Anne. Et ces vagues-là, ben, comme sur toute plage, elles faisaient monter, descendre le sable. Bref, le sable se baladait comme ça sur la plage. Mais il restait en place. Mais quand la digue a été faite, elle s'avance loin dans la rade. Maintenant, les vagues font le tour de la digue quand elles arrivent au bout, comme au bout de toute digue. Et puis, elles font un espèce de mouvement tournant comme ça. Elles tournent en partant du côté de la centrale et en revenant en direction du petit hôtel qui est au coin de la plage. Et elles balayent toute la plage en biais, en fait. Elles vont, disons, de l'est de la plage vers l'ouest de la plage et elles entraînent. Elles l'ont fait pas en une fois, bien évidemment, mais des bonnes vagues, ça peut trimballer des centaines de kilos de sable en une fois. Et ça entraînait le sable dans le coin de la plage. Mais dans le coin de la plage, il y a une buse par laquelle s'écoule le ruisseau de la vallée de Sainte-Anne. Et toute cette accumulation de sable a été reprise par le ruisseau. Et le ruisseau a entraîné le sable sous le niveau où il y a tous les petits bateaux qui sont mouillés. Ce qui fait que, à cause de la digue d'Ifremer, c'est clair et net, hein, le sable a disparu. Ifremer, champion du monde d'exploration des océans quand même, ont fait une digue qui a niqué la seule plage qui était ouverte à tous, etc. à Brest. Ifremer, quoi, la science même de l'océan. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant des décennies, c'est resté comme ça. Et puis, à un moment, je sais pas, on a pris langue avec la municipalité de Brest, qui était intéressée par nos études, parce qu'on bossait pour eux sur les sillons de la rade et tout. Et c'est eux ou nous, on a dit, mais quand même, c'est con que la plage de Sainte-Anne, qui reste une plage populaire, où on peut venir en bus, même si on n'a pas de bagnole, on peut venir en vélo et tout ça, que ce soit une plage sans sable. Et la municipalité de Brest a vraiment bien joué le coup. Ils ont dit, quoi, vous voyez une solution? On leur a expliqué donc tout ça. On leur a expliqué pourquoi le sable était parti, en apportant les preuves. Hein, je passe sur le temps qu'on a passé. On a analysé quelle était la dynamique de la plage actuelle, de la pure géomorpho, quoi. Comment elle bouge, comment se déplace le peu de sable qui reste, etc. En faisant des levées successives très précis avec des GPS et tout ça. Et puis on a été regarder où était le sable. On a vu, chose dont on se doutait, que le sable qui était descendu sous les bateaux, c'était le même que le sable d'en haut. Et donc on leur a dit, ok, on peut re-ensabler cette plage-là, mais il va falloir je passe sur les détails, et c'est peut-être difficile à comprendre, mais il a fallu réallonger le tuyau des arrivées d'eau du ruisseau pour qu'il ne reprenne pas le sable. Et en gros, on a remonté le sable du bas de la plage jusqu'en haut. On en a remonté encore cette année, en tout 2400 m3, je crois. C'est pas beaucoup, on pourrait remonter beaucoup, beaucoup plus, mais ça voudrait dire qu'il faudrait aller aspirer le sable avec une drague aspiratrice, ça coûterait cher. Je comprends que les budgets des villes, il y a des choses à discuter, mais on a remonté 2400 m3 en tout, et on suit au centimètre près les mètres cubes qu'on a remontés, où ils sont. Eh ben, ils sont toujours en haut, sans déconner. Ce qu'on a remonté en 2011, en 2019, il manquait pas un mètre cube, et là, on vient d'en remonter encore un paquet, et il y restera. Hein, on pourrait, mais là, je sais pas, là, c'est pas du tout une critique, on pourrait remonter beaucoup, beaucoup plus de sable que ça, si la municipalité l'ITE le voulait et décidaient d'investir là-dedans, mais peut-être qu'ils peuvent pas, peut-être que c'est trop cher, hein, on pourrait remonter à l'aise 10 000 mètres cubes de sable et avoir à nouveau une plage de sable comme au début, quoi. Mais après, c'est un choix, hein, je m'immisce pas là-dedans, là, ça peut être beaucoup trop cher pour une ville comme Brest, il y a des choses, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple concret de ce à quoi la géomorpho-littorale, ça sert surtout à comprendre des choses. Hein. Ça peut être considéré comme une science pure et après tout, ça existe. On n'a pas toujours à servir forcément à fabriquer des trucs. Mais concrètement, des fois, ça peut servir à ça. Quand des lieux ont été dysfonctionnent à cause d'équipements humains, etc., nous, derrière, on peut servir à rattraper le coup, quoi. Et je pense que là, c'est petit comme truc, mais je trouve que c'est bien que cette plage-là reste une plage popu, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi.
Donc Bernard, selon toi, quelles sont les problématiques actuelles et à venir pour les espaces marins et littoraux ?
Les espaces marins et littoraux, en dehors du fait que le niveau de la mer remonte, qu'ils sont menacés localement d'érosion, etc., je pense que la vraie préoccupation à l'échelle du monde tout entier, c'est que la géographie montre bien que de plus en plus les gens sur Terre s'installent près des littoraux, soit pour y vivre, soit parce qu'il y a des ports, parce que le trafic se fait par les ports, etc. Et donc une des grandes problématiques, c'est que c'est un milieu qui a depuis longtemps été humanisé, mais là ça va vite, quoi. Il suffit de regarder, moi je le fais, ou de me souvenir de ce qu'était le littoral breton quand j'étais petit, à ce qu'il est devenu, et pourtant c'est pas le littoral le plus pourri de France, où tous les bleds qui étaient des petits bleds de paysans sont devenus des bleds avec des résidences secondaires dans tous les coins, sur les dunes, etc. Et à l'échelle du monde, il n'y a pas à tortiller, il faut vraiment gérer cet espace-là pour que ça devienne pas un pôle d'urbanisation continue. Donc je pense qu'une des problématiques, c'est la gestion de qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là. Et je pense que ça passe en grande partie... Moi, c'est comme ça que je vois les choses, par de la protection intégrale de certains secteurs, quoi. Terminé, il n'y a plus le droit de bâtir, il n'y a plus le droit de... Donc, après, on peut discuter, on n'a pas le temps. Mais pour moi, une des problématiques essentielles, c'est sauvegarder ce qui reste, quoi. Et si possible, restaurer des coins qui ont été complètement pourris. Je suis pas, moi, pour... Moi, je pense, mais j'ai pas les arguments, et ça n'a pas été ma thématique de boulot, qu'il y a des endroits sur les littoraux où il faut défoncer ce qui a été construit. Et qui est, lors des grandes tempêtes, des immeubles qui menacent de s'écrouler sur la côte des Landes et tout, je me dis chouette, moi. En vrai, je me dis chouette, quoi. Ils avaient qu'à pas les faire là, et c'est pas grave s'ils dégagent, quoi. Je pense qu'il faut arrêter les frais. Une des premières choses, c'est au moins préserver le status quo. Le Conservatoire du Littoral fait un beau boulot en ce sens-là. Il a acquis ce qu'il pouvait acquérir, mais j'en ai causé avec des gens du Conservatoire qui, eux, sont dedans, une analyse. Ils le disent clairement et nettement. Malheureusement, nos espaces sont des espaces périurbains, c'est des espaces récréatifs. Et c'est vrai, moi, des fois, ça m'énerve quand je vais sur des coins où j'allais il y a 30 ans, où il n'y avait personne. Maintenant, il y a plein de joggeurs à la con, habillés en fluo, violet, avec des pacemakers et tout le tralala, qui courent dans tous les coins en faisant chier leurs chiens sur les espaces du conservatoire. Même ça, ça m'énerve, quoi. Hein, je pense que c'est un espace rare, quoi, et que c'est les gens qui bossent sur la protection, la gestion, etc., ben heureusement qu'ils sont là, quoi.
Et pour terminer, est-ce que tu peux nous citer quelques œuvres qui t'ont particulièrement marqué au cours de ta vie ?
Ben, étrangement, j'ai beaucoup lu en géographie, géomorphologie littorale et tout ça, mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus. Si dans ma formation initiale, un de mes profs, Guy Lecher, avait écrit des bouquins qui maintenant datent, mais qui pour moi permettaient vraiment de comprendre ce que c'était les codes, mais c'est pas ça qui m'a le plus transporté. C'est sur d'autres domaines, moi, que vraiment je suis ébloui par certains auteurs. En gros, c'est plutôt les gens qui traitent de l'évolution de l'humanité, voire de l'évolution au sens large, tout ce qui tourne autour de Darwin et ses descendants, si on veut, quoi. Et ben ouais, je bouquine beaucoup des gens comme Stephen Jay Gould, qui est un évolutionniste américain, ou Jared Diamond, qui sont des mecs qui écrivent sur le passé et le devenir de l'humanité. Ils peuvent se gourer parce qu'on n'a rien, on n'a jamais les preuves de ce qui risque d'advenir. C'est que des supputations. Mais les mecs n'hésitent pas à se lancer dans des scénars possibles ou probables. Et moi, c'est toujours ça qui m'a fait aller de l'avant, c'est essayer de comprendre ce qu'on est, quoi. Je ne sais pas si j'arriverai. Mais tous ces tribes-là, sur le pourquoi, par exemple, de la différence de traitement des mecs et des gonzesses. Pourquoi est-ce que la coercition dans toutes les sociétés humaines touche les femmes, pourquoi c'est toujours elles qui l'ont dans le cul, enfin, je veux dire, qui sont victimes, quoi. C'est une question qui me perturbe profondément. Il y en a les soi-disant sociétés matriarcales, tout ça, ça n'a jamais existé. Dans toutes les sociétés humaines, qui prend dans la gueule les bonnes femmes? Ben ça, c'est un truc qui me perturbe. Et je cherche la réponse depuis très très longtemps. Elle est dure à trouver, hein, parce que c'est souvent orienté, la réponse. Souvent, c'est des vieux machos qui ont écrit, ils disent « bah ouais, c'est comme ça ». Ou alors, c'est des ultra-féministes et elles disent « on s'est fait piquer le poumon ». Non, non. Voilà, ça, c'est des trucs qui me perturbent. Et je trouve des réponses chez les anthropos, chez Jared Diamond. C'est ça, moi, mon grand kiff en lecture, quoi.
Ben, un grand merci, Bernard, pour le temps que tu nous as accordé.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de lire « Les plages vont-elles disparaître ?» du géographe Roland Pascoff, de feuilleter « Bleu pétrole » de Gwenola Morizur à propos de l'accident du pétrolier Amoku Cadiz en 1978, et pourquoi pas de vous plonger dans les différentes publications scientifiques de Bernard Fichot. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de Radio U où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brieux Calonnec, Jody Kimberley-Grolier et Manuel Sahuquet. À bientôt.